Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous avons le plaisir de vous présenter un nouvel épisode de Pour moi la famille, un podcast où nous allons à la rencontre de familles et de futurs parents de la communauté LGBTQ+. Dans cet épisode, c'est moi, June.
Et moi, Mona.
Qui aborderons un sujet qui peut être complexe au sein de nos communautés. Les notions de famille d'origine et de famille choisie. Les relations entre les membres de la communauté LGBTQ+ et leur famille peuvent être difficiles. Et cela peut devenir encore plus complexe lorsque nous décidons de fonder notre propre famille. Mona, est-ce que tu dirais qu'avec les années, les familles d'origine ont tendance à mieux accueillir les projets familiaux de leurs enfants?
Je vais commencer pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une famille d'origine, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Mais c'est la famille dans laquelle nous avons grandi, qu'elle soit biologique ou adoptive.
Les parents avec lesquels on a grandi.
Oui, exact. En ce moment, il y a un grand projet de recherche sur les communautés LGBTQ+ au Québec. Ça s'appelle le projet SAVI. Et les statistiques qui commencent à sortir nous disent qu'autour de 25 % des grands-parents ne sont pas heureux à l'annonce que leur enfant gay ou lesbienne aura un enfant. Normalement, ce serait l'annonce la plus joyeuse, non?
Vraiment?
Quand même, un quart des grands-parents au Québec ne sont pas heureux. On voit avec ça qu'il y a toujours beaucoup d'homophobie et de transphobie dans notre société. Par contre, et ce n'est pas scientifique, mais c'est une observation que j'ai à la coalition, on voit de plus en plus des grands-parents dans nos activités, donc la cabane à sucre, le défilé de la fierté. Donc, j'imagine que de plus en plus, la famille d'origine soutient les projets parentaux de leurs enfants.
Oui, c'est le fun à voir puis à être témoin.
Oui, c'est ça, exactement. On voit une évolution. June, j'ai un petit show-off. Mes parents étaient les premiers grands-parents à marcher avec nous dans le défilé de la fierté à Montréal.
Oh, est-ce que tu te souviens en quelle année?
C'était comme au début des années 2000, je dirais.
OK.
Je suis fière d'eux autres quand je pense à ça. C'est pas toujours facile pour les grands-parents. Car quand on a des enfants LGBT qui deviennent parents eux-mêmes, parfois ça force une coming out pour les grands-parents.
C'est vrai que de se mettre visible comme ça, ça peut être très intense pour les grands-parents qui eux-mêmes ne sont pas de la communauté LGBT.
Exact.
Ben justement, en parlant des grands-parents, aujourd'hui, on rencontre trois familles qui vont nous parler de leur propre famille d'origine et la relation qu'ils ont avec leur famille choisie. Donc, la première famille, justement, qui nous parle plus des grands-parents, c'est la famille de Rachel et Marie. Après ça, on va rencontrer la famille de Marianne, celle de Roxane et Philly ensuite. Mais comme toujours, avant de commencer ce témoignage, nous allons prendre un moment pour expliquer quelques termes dans notre segment vocabulaire. Le premier terme à définir, c'est famille choisie. Définition compliquée. Une famille choisie, c'est une famille où les membres sont connectés par consentement mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un peu comme le meilleur ami de ton père, que tu appelles ton oncle depuis ta naissance. Même si vous n'êtes pas connecté génétiquement, il fait partie de la famille. Dans nos communautés, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues de leur famille d'origine quand ils font leur coming out. N'est-ce pas, Mona?
Oui, malheureusement.
Malheureusement.
Oui.
Puis ce qui peut faire qu'on perd un espèce de support, on perd un support familial duquel on a besoin. Donc, on se retourne souvent vers la notion de famille choisie. Donc, des amis, des gens qui ont des positions importantes puis qui font un support que la famille, en fait, vient donner d'habitude. Donc, ça, c'est la famille choisie. Le deuxième terme qu'on va définir, c'est la famille nucléaire. Donc, c'est quoi? C'est une forme de structure familiale où le couple hétérosexuel...
Ou homosexuel.
C'est vrai, il ne faut pas oublier.
Homosexuel. Oui, les deux.
Et leurs enfants se retrouvent au centre, mettant souvent de côté les membres de la famille élargie. Donc, un petit noyau familial, les deux parents, souvent les deux enfants, un chien, un chat, une maison en banlieue. C'est ça l'image qu'on a de la famille nucléaire.
Moi, j'ai une autre image de ça.
C'est quoi?
Comme nucléaire, je pense toujours aux années 50-60 avec la guerre froide, puis une petite famille dans leur bunker.
Ah, OK, j'aime ça, j'aime ça. Dans cette forme de famille-là, souvent, au contraire de dans d'autres formes de famille, la famille élargie, donc les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça, n'ont pas nécessairement d'influence sur l'éducation des enfants. Ça, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que cette famille-là a été instaurée puis rendue viable, en fait, par l'avènement du capitalisme et la colonisation dans le monde occidental.
Oui.
Donc, c'est important de retenir que la famille nucléaire, c'est un modèle qui est très important en Occident et que ce n'est pas toutes les cultures, en fait, qui pratiquent ce modèle de famille-là.
Non, pas du tout.
Le troisième et dernier mot qu'on va définir, c'est homonormativité. C'est un peu l'inverse de l'hétéronormativité. Donc, si on se souvient, l'hétéronormativité, c'est l'hétérosexualité est vue comme la norme dans la société. Mais dans les années 80-90, il y a un nouveau terme qui est arrivé, homonormativité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que des couples homosexuels veulent correspondre à cette normalité-là. Donc, si on retourne à la normalité de la famille nucléaire.
Donc, c'est comme si on copiait ce type de famille.
Exactement, oui, comme si on voulait copier ce type de famille.
Oui. En fait, comme l'homonormativité, c'est quelque chose qui a touché la coalition comme à travers les années, parce qu'on était parfois, comme par certains membres de la communauté et par le grand public, on était vu un peu comme progressiste ou radical, mais pour d'autres membres de la communauté, on était vu comme homonormatif et très comme voulant reproduire la norme hétérosexuelle. En fait, c'était le cas comme dans notre lutte pour le mariage des conjoints de même genre, pour comme la reconnaissance de nos familles, de notre parentalité aussi. C'était comme d'un côté une population qui ne voulait pas reconnaître nos familles. Il y avait comme, quand on a lutté pour ça au Québec, il y avait très peu de personnes qui voulaient accepter l'idée d'une famille homoparentale. Mais de l'autre côté, il y avait comme des personnes LGBT qui pensaient qu'on était comme des, et puis je dis ça en grand guillemets, des breeders.
Des
gens qui voulaient vraiment comme juste avoir des enfants et puis faire la même chose que les hétérosexuels.
Donc de copier les hétéros. Vous étiez un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, d'un côté, d'essayer d'aller chercher des droits que la majorité des Québécois, des Québécoises étaient contre.
Oui.
D'un autre côté, de peut-être être mal vu par certains membres de la communauté LGBT parce que vous vouliez justement faire comme les hétéros dans leur tête.
Oui, mais en fait, on ne voulait pas que ce soit le cas pour tout le monde. En fait, on voulait juste donner des choix. Donc, d'avoir des enfants ou non, se marier ou non, mais on a les mêmes choix que tout le monde.
La première famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est Rachel et Marie. Donc, pour fonder leur famille, Rachel et Marie, qui sont un couple lesbienne formé d'une femme cisgenre et d'une personne en questionnement sur son identité de genre, ont demandé un don de sperme à un couple d'amis proches. Ces donneurs, l'un biologique et l'autre social, sont les parrains de leurs enfants et occupent encore une place importante dans la vie de ceux-ci. Alors, Rachel et Marie, comment t'es-tu rencontrée, Mona?
En fait, c'était notre journée intensive pour les futurs parents. C'est comme une journée où on a toujours comme une cinquantaine de personnes et on les donne beaucoup d'informations sur comment fonder une famille.
OK, cool.
Et puis après ça, Rachel a travaillé pour la coalition comme employée à temps partiel. Et elle a même écrit un chapitre dans un de nos livres. C'était un chapitre sur les grands-parents.
OK.
Oui, c'était dans notre livre orange qui s'appelle « Famille LGBT, le guide ».
Le guide que vous appelez... Oui. Le livre orange, parce que c'est un livre bien
fluo.
Orange.
Oui, fluo. C'est ça.
Donc, je ne sais pas si tu te souviens, Mona, on a rencontré Rachel et Marie en juin 2022. Puis c'était notre première entrevue.
Oui.
On était un peu stressés.
Oui, c'est ça. C'était après.
Fait que le GPS, je ne sais pas si tu te souviens, là, c'est un peu précis, là, mais le GPS nous a apporté la mauvaise adresse.
Oui, c'est ça.
Fait que nous autres, un peu stressés dans le char, en train de chercher l'adresse. Puis c'est pas la bonne adresse.
Non.
On était pognés. Alors, on s'est retourné, on a retourné en voiture, puis on est arrivé à la maison de Rachel et Marie pour avoir cette magnifique conversation.
Oui.
Donc, on vous laisse aller l'écouter. Bonjour. La première question, c'est présentez-nous votre famille en incluant vos prénoms, pronoms et toute autre information que vous trouvez pertinente.
Je m'appelle Rachel. Marie est là. Elle s'appelle Marie. Donc, on est deux blondes avec deux enfants. Noré, qui a 6 ans, et Zian, qui a 3 ans. Et on pourrait aussi présenter deux autres personnes, nos deux parrains, en fait. On a une particularité d'avoir deux donneurs, un donneur bio puis un donneur non bio dans notre famille.
Vous prenons les deux, c'est elle?
Pour
le moment.
Oui. C'est prénom elle.
Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Je pense que c'est Rachel a parlé pour elle, mais... Quand on évolue en sachant qu'on n'est pas hétéro, le pattern il est vraiment rapide. Tu te dis, bon, dans le fond, cette vie d'hétéro n'est pas faite pour moi, fait que j'aurais probablement pas d'enfant. C'était ça, vraiment. Mais après, dans le fond, quand j'ai rencontré Rachel, puis ça a évolué, la possibilité ou l'envie, d'un coup, est comme apparue. Puis je pense que de connaître des ressources comme la coalition des familles LGBT, c'est ça qui a ouvert la possibilité.
Toi, Rachel, est-ce que tu veux me parler un peu de si tu as toujours voulu des enfants?
Bien, c'est une histoire, en fait, semblable à celle de Marie. En fait, assez tôt, quand j'ai réalisé que j'étais gay, j'ai intériorisé le fait que j'allais pas avoir d'enfant. Puis cette intériorisation-là n'était pas seulement de mon propre... C'était pas juste moi qui me disais ça, là. On me l'a bien répété à plusieurs reprises. Fait que c'est le reflet que j'avais d'à peu près tout le monde à l'âge de 16, 17, 18, 19 ans. J'ai eu beaucoup de ces commentaires-là, en fait. Mm-hmm. Que, ah, mais c'est dommage, t'auras pas d'enfant, t'aurais fait, je pense, une bonne mère. On me disait ça. Fait que ça, on avance un peu dans l'histoire de notre famille. Nous, ça faisait quoi, peut-être 8, 9 ans qu'on était ensemble quand on a commencé à penser à avoir des enfants. Puis là, ben c'est ça, il y avait plusieurs options possibles. Est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'on va vers l'insémination avec un donneur connu? Est-ce qu'on va en clinique de fertilité? Il y avait une panoplie, en fait, d'options. Puis là, on brassait ça. Puis on était un peu intellectuel aussi dans notre façon de réfléchir à tout ça. Puis la vie a fait qu'autour de nous, on avait des hommes, en fait, qu'on s'est dit, qui seraient willing, en fait, d'être... Mm-hmm. Partie prenante de cette expérience-là avec nous, ce qui n'est pas toujours évident.
Certainement pas.
Fait qu'on a engagé, en fait, dans cette aventure-là.
Je me souviens, tu te rappelles parce que de tu travaillais à la coalition à ce moment-là, à temps partiel, et puis tu me parlais un peu de ton projet parental, et puis il y avait comme tout, il y avait une donneur, et puis beaucoup, 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 beaucoup de réflexions pendant comme plusieurs années. Moi, j'ai le feeling que c'était 3-4 ans.
Puis peut-être que c'était notre genre de faire ça de cette manière-là. Mais au final, c'est vrai qu'on a, tu sais, avec le parrain, non, le donneur non bio, qui était notre porte d'entrée, en fait, pour son conjoint, on s'est dit, ben est-ce que tu pourrais imaginer? Et là, il a dit, OK, ben laisse-moi réfléchir, tout ça. Puis... tranquillement, on a dit, bon, là, faisons un souper pour jaser de ça à quatre. Une des premières choses qu'on s'est dit, c'est ce qu'on tente de faire là, c'est d'engager dans une aventure à quatre. Puis, du moment où on n'est pas à l'aise dans la conversation, on arrête parce que là, on va bouger des choses au niveau de qui on est par rapport à ce projet-là. Ça renvoie à des statuts différents, la mère qui va porter, le parent qui va pas porter, le donneur qui est là, qui va être complètement le parrain, mais qui n'aura pas de lien biologique, le donneur parrain qui a des liens biologiques. Finalement, on est un espèce de quatuor avec des rôles différents, mais finalement, je pense que c'était dans cette ouverture-là, avec pas trop d'engagement, qu'on a avancé dans le projet, finalement.
Mais c'est vrai, il y a comme tellement... Comme, d'abord, il n'y a pas de modèle. Donc, vous deux, vous avez grandi dans des places où il n'y avait aucune famille homoparentale et transparentale. Oublie ça complètement. Donc, on n'a pas les modèles. Et puis, on reçoit toutes sortes de messages que c'est pas pour nous. Moi, je m'en souviens de même chose. Comme, OK, je suis lesbienne, donc de facto, je ne serai jamais une parent. Je ne me suis pas questionnée avant l'âge de 32, 33 ans, quand c'était vraiment comme même pas dans ma tête. On n'est pas, mais j'imagine que c'est la même chose pour vous autres. Vous n'êtes pas comme une couple à votre première date, vous avez discuté d'avoir des enfants.
Non, vraiment pas là.
Donc, c'est ça. Et puis là, comme c'est comme quelque chose de la positive de la coalition. C'est sûr qu'on est capable de montrer un peu comme les différents types de familles qui peuvent exister.
Une autre chose, en fait, je pense que la coalition, moi, m'a apporté, c'est le projet, en fait, du livre. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mona, mais il y avait eu l'idée d'aller rencontrer des grands-parents, en fait, d'enfants dont les parents sont LGBTQ. Quand je leur demandais, finalement, c'est quoi votre expérience d'être grands-parents de vos enfants qui sont LGBT, ce qui sortait fort, en fait, dans leur conseil, c'était laissez aux grands-parents le temps de se préparer, finalement, à cette expérience d'être grands-parents dans ce contexte, parce que, dans bien des cas, eux aussi vont avoir fait le deuil de la grand-parentalité. Fait que ça, moi, ça m'a aussi été un beau cadeau, cette expérience-là via la coalition, c'est d'entendre que si ça avait pris plusieurs années faire ce cheminement-là de notre part, bien, il fallait pas attendre nécessairement, si c'est possible, là, évidemment, chacun son contexte, mais il fallait pas attendre d'être à 40 semaines de grossesse pour le dire à nos parents, à nous, finalement. Moi, dans mon cas, ça a été quelque chose que j'ai entendu et que j'ai donc amené un petit peu plus tôt dans ma relation, entre autres avec ma mère, qui a une réaction forte, qui disait « Mais oui, mais tes enfants vont vivre sur une planète de lesbiennes. » Puis là, il y avait une histoire de plein de préjugés. Puis je me rappelle, j'en avais parlé à Mona, qui avait dit « Mais... » Puis c'était une belle lecture, en fait. Elle disait « Mais derrière ces questions-là, il faut être indulgent. Il y a déjà un souci de dire, finalement, cet enfant-là va-t-il être élevé avec une panoplie de modèles? » Puis on voyait que derrière, plein de couches de freins puis de préjugés, il y avait quand même un souci, dans le fond, du bien-être de l'enfant. Fait que ça a été, je pense, de cette germe, tu sais, travailler sur ces petites graines d'ouverture peu à peu dans le temps. Je pense qu'il faut aussi le permettre, en fait, pour nos parents. Tu sais, les choses peuvent changer.
Parler un peu de famille choisie, l'espèce de concept de famille choisie, où est-ce que en tant que communauté LGBTQ+, quand on crée des familles, on va un peu à l'envers de l'idée de l'hétéronormativité, tous ces grands mots là, de papa, maman, la famille nucléaire. Puis je pense que veux pas, ben on se crée des nouveaux termes, on se crée des nouvelles visions de la famille. Puis je pense que c'est là que la beauté de la famille choisie, parce que toutes les familles choisies sont différentes. Puis je me demandais pour vous si vous vouliez me parler un peu de qu'est-ce que c'est votre famille choisie. Comment vous vous sentez par rapport à ce terme-là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ben, moi, je te dirais que la famille choisie, c'est ce qui nous permet d'avoir une famille, en fait. Fait que c'est super, c'est fondamental au fait qu'on ait une famille, parce que c'est grâce à nos deux amis qui étaient un couple d'hommes gays qu'on a nos enfants. Toute cette idée de communauté, d'avoir plein d'exemples aussi, plein de modes de vie... pour nos enfants, je trouve ça vraiment important. Puis aussi le fun, c'est à vivre. Parce que souvent, tu sais, on se le dit, la petite famille nucléaire, les deux parents, les deux enfants, ben c'est un peu étouffant.
Mais moi, je pense que le fantasme vient aussi, que on en parlait avant de vous voir, que le quotidien d'une famille LGBT ressemble drôlement à le quotidien d'une famille hétéroparentale, surtout avec de jeunes enfants.
Ouais, les jeunes enfants, ça...
Fait que le côté, finalement, noyau dur de la famille, deux parents, deux enfants, c'est en fait ce qu'on fait beaucoup.
Même chose.
Je sens pas qu'actuellement j'ai un engagement très fort dans la communauté LGBTQ+. Je peine à faire tous les plats pour les lunchs, les si, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a déjà été dit par d'autres, mais évidemment qu'on voudrait avoir une vie, tu sais, avec une grande communauté de gens, mais au quotidien, c'est vrai que, tu sais, notre famille, c'est nous deux avec nos deux enfants.
Parce que, tu sais, de vivre dans dans l'univers de la petite enfance, je pense qu'il y a aussi très spécifique à une routine, à une fatigue et à... Puis, tu sais, c'est magique aussi à plein d'égards, tu sais, mais c'est une réalité à laquelle on n'est pas du tout exposé avant d'avoir des enfants. On ne sait pas que ça va être un tunnel de 6-8 ans, puis ça l'est, là. C'est quand même un méchant tunnel. Fait qu'il faut comme... ouais, ça peut être un choc, là. Mais moi, ça me renvoie beaucoup les familles hétéros autour de nous. Il y a beaucoup les grands-parents. Beaucoup, beaucoup. Puis nous, puis ça pourrait être différent. C'est pas parce qu'on est une famille LGBT, là, mais on n'a pas les grands-parents zéro. Fait que veut, veut pas, nous, notre extension, la grand-parentalité qui n'est pas présente dans le quotidien, dans l'éducation, ben, ça devient notre réseau d'amis, qui n'est pas uniquement LGBT, mais c'est vraiment fait que la famille choisie revient vite comme notre filet d'extension de cet univers, oui, d'entraide, mais aussi juste de voir du monde, d'avoir un souffle, de ne pas être tout le temps avec des enfants en bas âge et des conversations avec des enfants, puis des routines d'enfants, puis de la... Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est pas propre à notre condition de famille LGBT, mais dans notre situation à nous deux, c'est la réalité de la famille choisie.
J'aimerais ça, pour Claire, parce que je pense qu'on est rendu à Claire. Est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles LGBTQ+, sur comment se préparer?
Moi, je dirais juste aller suivre des formations ou des interventions de la coalition. C'est génial, ça donne des outils, c'est
bon
humain.
Bon, Marie, merci.
Non, mais vraiment, on peut quand même dire, Mona, là, c'est un monument de la cause LGBT au Québec, tu sais, qui a changé des lois.
Aucun doute.
Mais au-delà de ça, c'est une personne extraordinaire, mais c'est ça, ça vient, ces espaces-là, avec plein de récits et tellement d'humanité. Tu sais, moi, j'y allais, je me souviens, je shakais un peu parce que c'est tellement étrange à la fois, mais c'est tellement riche, puis tu sors, puis t'es comme, c'est ça, t'es empowered. T'as des outils, mais t'as vu des vraies personnes qui l'ont fait, qui viennent témoigner. Fait que c'est quand même très puissant.
Moi, je dirais aussi, en tout cas pour ma part, De cultiver l'optimisme, en fait. Si je repense à une certaine période de ma vie, je voyais ça un peu sombre, justement. Je voyais ça avec beaucoup d'embûches, le fait d'être gay. T'sais. Je le voyais pas si positif, mettons ça de même. Puis, c'est encore là, c'était le reflet qu'on me donnait, si ta vie va être plus difficile. Je l'ai entendu beaucoup, ça. Puis le fait d'engager dans un projet familial, ben je le voyais un peu compliqué.
Mais on reçoit tellement de messages négatifs quand on grandit, donc on intériorise ces messages.
Ben oui.
C'est normal.
C'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a des gens, à la fois, tu sais, des jeunes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou qui se demandent s'ils vont avoir une famille, tu sais, il y a vraiment beaucoup de possibilités maintenant, en fait, je pense. Puis il y a des modèles, il y a des groupes qui sont là, il y a des réseaux existants. La famille, pour nous, c'est quoi?
C'est la joie de vivre.
C'est plein de lumière, c'est plein de rire et c'est plein de petits chatouilles.
Je suis quand même fière de notre première entrevue. Je pense qu'elle était quand même bonne.
Toi, t'étais excellente, Jim.
C'est gentil. Puis on a tellement appris d'affaires. Moi, premièrement, j'ai vraiment été touchée par tous les trucs autour de la grand-parentalité, mais aussi, j'ai appris l'espèce de notion de donneur social.
Oui, que moi non plus, j'ai jamais entendu de ça avant.
De comment, parce que Rachel et Marie ont demandé à leur ami proche, « Oh, est-ce que tu aimerais ça faire un don? » Puis qu'ils ont dit, « Pas moi, mais mon chum, oui. » Alors, de se dire que ce couple-là, qui sont des donneurs sociaux et bio, sont encore présents dans la vie des enfants, je trouve ça vraiment beau.
Pour moi, j'ai découvert que comme ce chapitre-là que Rachel a écrit était très important dans sa vie. Je ne savais pas ça, mais c'était comme sur les grands-parents et puis ça l'a mené à réfléchir sur sa propre mère et puis ses relations avec ses parents. Donc, c'était aidant pour elle. J'ai trouvé ça cool.
De se dire que tu as une petite partie là-dedans.
Oui.
C'est cool de se dire ça.
Oui.
Notre deuxième famille aujourd'hui, c'est la famille de Marianne et Marie-Ève. Aujourd'hui, on a parlé juste à Marianne, mais je vous présente la famille au complet. Donc, Marianne a fait un don de vue à Marie-Ève, ce qui lui a permis de porter leur enfant, Gabriel.
Tu sais, comme ça, c'est la rêve lesbienne.
Ah oui?
Oui, c'est ça, qu'il y a l'ovule d'une et l'autre porte. J'ai entendu ça tellement fréquemment.
Donc, Gabriel peut compter sur la présence d'une grande famille, autant choisi que d'origine. Mais qu'est-ce qui est le fun dans leur famille, c'est que la majorité des personnes qui font partie de leur famille d'origine font aussi partie de leur famille choisie. Donc, ces deux notions-là sont vraiment mélangées entre elles. Comment t'es rencontrée, Mona, déjà?
Mais en fait, Marianne était au doctorat avec son superviseur, était Isabelle Côté, qui est une grande partenaire de recherche avec nous à la coalition.
Et amie de la coalition.
Oui, et amie aussi, c'est sûr.
On a visité Marianne en nous, dans son appartement de Montréal. Je me souviens parce que c'était vraiment un bel appartement,
oui,
avec des boiseries, oui, partout. Oui. Puis aussi un petit truc qui m'a vraiment touché, c'est quand on rentre, il y a une grande bibliothèque remplie de photos de sa famille.
Oui, oui, c'est magnifique.
Oui, vraiment beau. Puis je pense que c'était un bel indicateur justement pour la conversation qu'on allait avoir.
Oui, c'est ça. Puis l'importance de sa famille.
C'était une belle journée ensoleillée. On est allé voir les plantes sur le balcon, les vignes qui poussent bien, puis les tomates qui poussent un peu moins bien. J'espère que vous êtes prêts à rencontrer la famille de Marianne. Euh, ma première question pour toi, c'est peux-tu un peu me présenter ta famille, autant vos prénoms, vos pronoms, puis toute autre information que tu trouves le fun à nous partager?
Oui. Alors, je vais commencer par moi-même.
Bien sûr.
Mon nom, c'est Marianne Chubat. Mon pronom, c'est elle, she, mes accords féminins. Je m'identifie comme mère en général, mais aussi parent dans certains contextes. Donc, j'ai une fille de presque 7 ans qui s'appelle Gabrielle. Ses pronoms sont elle aussi. Et son autre parent, c'est Marie-Ève, qui navigue présentement entre le elle et le yel. Et donc, c'est ça, j'ai eu cet enfant avec cette personne-là il y a presque 7 ans maintenant, dans un projet de familial, de coparentalité. On était un couple à ce moment-là, puis on s'est séparés quand Gabrielle avait 3 ans. Après ça, ma famille, c'est aussi un peu plus que ça. Donc, dans ma famille, il y a aussi mes parents. Il y a aussi la mère de Marie-Ève. Il y a aussi notre fratrie. Donc, mes frères, mes sœurs, son frère, tous les cousins, les cousines. Et il y a aussi certains amis dans mon entourage. Fait que, oui, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment ma famille. C'est vraiment des personnes vers qui je me tourne puis qui participent aussi activement à l'éducation de notre enfant. Ouais.
Merci. Une question de fun. Est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Alors, c'est une très question, très le fun, comme tu dis, puis c'est une question très complexe, je trouve, parce que je trouve que c'est un peu difficile de faire la différence entre, surtout par rapport au désir d'enfant, entre ce que la société s'attend de nous, c'est-à-dire avoir des enfants, et notre désir authentique vraiment d'en avoir. Donc, moi, je peux dire que j'ai vraiment grandi dans un contexte où devenir parent était vraiment comme l'objectif ultime. Je n'ai pas peur de le dire. C'était vraiment... J'ai grandi dans une grande famille. Déjà, mes parents ont eu 5 enfants. J'ai grandi avec, en entendant là, depuis que j'étais toute petite à quel point devenir parent, c'était l'accomplissement de la vie de tout adulte, que c'était super important. En tout cas, moi, mes parents, ils m'ont toujours montré qu'ils étaient sincèrement heureux d'avoir eu des enfants puis qu'on était leur plus bel accomplissement. Donc, c'était en fait presque impossible pour moi de m'imaginer sans enfants. Après ça, quand j'ai fait mon coming out de personne lesbienne, j'avais 17 ans. Ça a été, ça a été difficile, notamment parce que c'est venu rompre avec cet idéal de devenir parent potentiel. C'était en 2001. Le temps a passé, puis je pense que je me suis réappropriée quand même ce désir d'enfant dans un contexte beaucoup plus favorable, en tout cas, socialement, légalement, tout ça, par toutes les avancées qu'il y a eu. Mais je pense que oui, il y aura toujours une partie de moi qui a eu des enfants quelque part pour répondre aussi à certaines attentes sociales. Je pense que c'est très difficile de pas répondre à ces attentes d'une certaine manière, consciente ou inconsciente. Mais je sais aussi aujourd'hui qu'il y a une Marianne tout à fait authentique et intègre qui voulait aussi être parent, mais qui voulait être lesbienne. Donc, je voulais être une mère queer, puis ben, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai réussi à l'être.
Je me demandais, à travers ton projet parental, puis à travers ta propre parentalité, comment tu as réussi, puis comment tu réussis aussi à arrimer ta famille, ta culture d'origine, ta communauté LGBTQ+, mais aussi ta parentalité?
C'est un très grand défi, puis c'est quelque chose qui se fait un peu, je pense, par vagues, par morceaux. Ça ne peut pas se faire tout le temps, tout en même temps. Moi, je trouve que ma plus grande conciliation identitaire, en tout cas au niveau de ma sexualité puis de mon ethnicité, c'est beaucoup fait avant de devenir parent. Ces blocages, ces réflexions, c'est tout ça, ils ont vraiment comme explosé, c'est ça, avant de devenir parent. Puis je pense que j'aurais pas voulu ou j'aurais pas pu devenir parent si j'avais pas en amont réfléchi, mieux articulé
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une fille d'immigrant? Donc, mes parents ont immigré du Moyen-Orient. Mon père est libanais, ma mère est égyptienne. J'ai vraiment grandi dans un milieu, je dirais, assez proactif au niveau de la transmission de la culture arabe, notamment libanaise. Tu sais, mes parents m'ont parlé arabe quand j'étais petite. On allait à l'église maronite, donc avec d'autres personnes libanaises. Mes parents avaient beaucoup d'amis d'origine libanaise, égyptienne aussi, mais plus libanaise. Donc, d'un côté, ils étaient très fiers de cette histoire-là. Puis en même temps, mes parents, ils étaient aussi très conscients, je pense. En tout cas, ils avaient intériorisé, ça, je le comprends maintenant avec du recul, tout le, ben justement, le stigmate, puis toute la lourdeur que c'est d'être une personne arabe. Donc, ils nous transmettaient aussi de façon un peu, je pense, ambivalente cette identité-là. Puis, c'est comme, ils voulaient qu'on apprenne l'arabe, ils voulaient pas, on n'était pas que des Québécois, on était des Québécois d'origine. Ça a été longtemps, une très grande tension pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'allais concilier le fait que j'étais donc arabe, arabophone, libanaise et puis lesbienne. C'était vraiment comme... J'avais pas de modèle. Tout de suite, je me suis dit, mais ça, c'est incompatible avec mon origine ethnique. Puis je dirais que presque pendant 10 ans, j'ai comme complètement mis de côté mon origine ethnique, puis je me disais, mais le fait que je suis arabe, dans le fond, va venir contrevenir au fait que je vais pouvoir vivre une sexualité, tu sais, émancipée, libre et tout ça. Puis par la chance, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes aussi qui naviguaient un peu ces espaces-là avec moi. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas nécessairement besoin de choisir. Ce nœud-là, je l'ai défait. Je peux pas dire que je l'ai complètement défait, mais je l'ai défait en grande partie. Puis là, tout d'un coup, c'était comme je devais être parent.
On entend plein d'histoires où les grands-parents sont pas mal, comme mal à l'aise, en fait, quand ils découvrent que leur enfant queer va devenir parent. Mais dans le cadre de tes parents, c'était pas ça du tout, hein?
Pas du tout. Exactement. Donc, en 2001, le moment de mon coming out, et puis 2015, la naissance de Gabriel, il y a eu sensiblement quand même beaucoup de trucs qui ont bougé. Tu sais, je pense que si je leur avais dit que j'étais queer en 2013, puis que j'avais eu mon enfant en 2015, bon, peut-être que le processus aurait été un peu différent. Fait que je pense qu'il y a une question de temps. Mes parents ont eu le temps de le gérer. Mais il reste que j'avais remarqué que jusqu'en 2015, mes parents étaient quand même dans le placard encore par rapport à certaines personnes, notamment par rapport à certains amis de leur communauté ethnique. Puis je crois qu'ils le faisaient un peu pour se protéger parce que, ouais, justement, ils n'étaient pas non plus, ils connaissaient pas nécessairement d'autres parents ou amis qui avaient des enfants qui étaient ouvertement LGBTQ. Donc, la famille le sait, mais on n'en parle pas vraiment. Et puis, quand je suis devenue parent, là, le discours a changé vraiment. Puis mes parents, oui, ont été obligés de faire un coming out, mais ils étaient tellement heureux et prêts à le faire. Je sais, là, justement, mon père, pour lui, puis ma mère aussi, mais je pense que c'est plus mon père. Et c'était vraiment pour lui, là, c'était comme tellement important que je devienne parent. Puis là, comme je le suis devenue, puis ben il pouvait pas s'en cacher. Il pouvait pas se cacher du fait que sa fille avait eu un enfant. Puis en plus, je l'ai pas porté. Fait que, tu sais, face à ses enfants, face à ses amis, j'ai jamais été enceinte, j'ai jamais... Mais il était tellement heureux. Il était tellement, tellement heureux que là, je sais pas, il y a eu en lui cette espèce de force de dire, voilà, ma fille a eu un enfant, c'est la 7e, 8e merveille du monde. Et puis, elle a eu avec une autre femme. Il est devenu vraiment là, tellement fier. Puis, tu sais, il disait, cette petite fille-là est tellement chanceuse, puis elle grandit dans un milieu tellement aimant, puis nous, elle nous a transformés. Puis vraiment, j'ai vu son discours, là, vraiment se... devenir tellement puissant, puis tu sais, de dire des choses à ses amis comme « Moi, aujourd'hui, je me compte chanceux d'avoir une fille lesbienne, tu sais, parce que j'ai pu comprendre différemment, j'ai pu vivre, expérimenter ça différemment. »
En tant que personne queer, on a souvent tendance à définir la notion de famille choisie un peu à la négative de la famille d'origine.
Mm-hmm.
Puis je vois que quand je t'entends parler de ta famille choisie, ta famille d'origine, ça se mêle toujours, tout mm-hmm. ensemble.
Moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de chance. Puis j'ai eu la chance que la grande majorité de ma famille d'origine est devenue aussi ma famille choisie. Dès que j'ai fait mon coming out vers 17-18 ans, puis que j'ai commencé à aller vers d'autres personnes LGBTQ parce que j'en avais besoin, j'ai compris qu'est-ce que c'est une famille choisie. Puis je me suis sentie vraiment à l'aise. Puis assez rapidement, je me suis dit, mais ma famille biologique ou d'origine est importante, mais ces personnes-là, ils sont vraiment aussi. Puis on partage ensemble une expérience que je ne peux pas partager avec ma famille d'origine, en tout cas en termes d'expérience de minorité sexuelle. Puis, fait que moi, assez rapidement, j'ai ressenti le besoin d'avoir des liens très forts avec mes amis. Pour moi, la famille, elle prend vraiment son sens quand on la choisit. Je choisis, je suis active dans mon rôle de famille. Puis, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le lien de sang puis le choix, la personne qui n'est pas liée à nous par le sang. Puis je l'ai compris très vite, puis je veux vraiment maintenir ça avec la petite. Elle nous entend dire, tu sais, telle personne, c'est comme ma sœur ou c'est ma sœur, même pas comme, c'est ma sœur, c'est ma famille. Fait que je lui souhaite de développer ses liens familiaux comme elle veut, mais je lui souhaite juste d'avoir des liens vraiment significatifs. T'sais, peu importe que ce soit avec ses cousins, avec ses parents, avec ses amis, où est-ce qu'elle se sent profondément soutenue et où elle aussi est en mesure de soutenir.
Est-ce que tu as des conseils, des recommandations pour les futures familles LGBTQ+?
Je suis pas très forte sur les conseils. Là. Je pense que chaque personne doit d'abord et avant tout ses clichés, mais écouter son expérience, puis tu sais, s'ajuster selon ses besoins. Mais je pense que d'abord et avant tout, j'aurais été plus rapide à aller chercher de l'aide, de reconnaître que c'est difficile d'être parent. Puis pour ça, aller chercher de l'aide, ça implique aussi de s'ouvrir à ce qui est différent de nos attentes, dans le sens que je savais que si j'ouvrais puis je demandais de l'aide à nos parents, ben ça allait pas nécessairement être exactement comme on voulait, parce que peut-être qu'à la base, j'avais peut-être des standards un peu trop rigides par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une bonne parentalité. Puis j'étais tellement comme inquiète aussi, on était tellement inquiète de... On voulait tellement élever notre enfant comme le mieux possible, tu sais, avec justement un peu ces principes aussi féministes, queer et tout ça, que là, on disait, si on ouvre à notre réseau direct, qui sont nos parents, ben là, ils vont comme un peu genre...
Contaminer.
Fait que, aller chercher de l'aide, s'ouvrir. Fait que, mais...
Le c'est notre job le plus difficile, même ouais. D'être parent.
C'est
on pense
ça.
Qu'on est comme, on a tout sous contrôle dans nos vies, puis là, un enfant arrive, et puis wow.
Vraiment.
C'est tellement difficile. Et puis d'accepter que, comme veut pas, on n'est pas parfait comme parents.
On n'a vraiment pas une chance.
Oui, oui. Mais en même temps, comme on a des enfants, on pense qu'on va être comme un excellent parent. Et puis là, l'enfant arrive et puis c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et puis d'accepter que, OK, je fais des erreurs.
Vraiment. Je fais des erreurs, puis j'apprends des choses. J'apprends à nommer les choses ou à ne pas les dire ou à attendre. Comme ça demande beaucoup d'adaptation à être parent. Beaucoup. Pour moi, la famille, c'est le fait de se choisir mutuellement puis de chercher à s'accompagner, de réactualiser le lien puis d'accepter que des fois, ben ça peut s'arrêter, mais des fois, ça peut aussi juste se renforcer.
Une belle entrevue.
Oui, oui, oui.
Je voulais prendre le temps de remercier Marianne parce que je trouve qu'elle a vraiment été généreuse avec nous sur comment sa conciliation identitaire puis sa sexualité, puis son ethnicité, puis sa famille, ça a vraiment été un combat interne, en fait, de réconcilier tout ça ensemble.
Mm-hmm.
Donc, merci beaucoup à Marianne d'avoir été vulnérable avec nous.
En fait, moi, quand j'ai participé à cette entrevue, ce que j'ai constaté, c'était vraiment que quand on est dans une situation minoritaire, qu'on soit une personne LGBTQ+, qu'on est une personne BIPOC, il y a vraiment une grosse pression à être un parent parfait. On se sent parfois vraiment sous la loupe. Donc, pour pousser contre ça, Marianne a dû redéfinir ce que ça veut dire pour elle d'être une mère.
La troisième et dernière famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la famille de Roxane et Philly. Donc, Neve, qui est l'enfant de la famille, est issue d'un projet parental de Philly et de sa coparent. Les deux ont choisi d'avoir leurs enfants par insémination à la maison avec l'aide d'un donneur. Aujourd'hui, comme le couple est séparé, Neve vit en garde partagée entre la maison de Philly et Roxane, qui sont sa nouvelle partenaire, et la maison de maman, qui habite avec Tati, Tonton et bébé cousin. Ce qui est certain, c'est que Neve peut compter sur la présence de 5 adultes significatifs dans une grande famille choisie et recomposée. Comme elle le dit elle-même, elle n'arrête pas de grandir. Donc, Philly et Roxane, d'où est-ce que tu les connais, Mona?
Mais je connais Philly parce qu'elle est devenue une membre de notre équipe de formation à la Coalition il y a peut-être 2-3 ans. Elle a aussi travaillé sur plusieurs de nos autres outils en ligne.
Okay.
Et surtout, elle a écrit notre livre « Des mots pour exister ».
Roxane, d'où est-ce que tu la connais?
Mais en fait, Roxane était aussi membre de notre équipe de formation, mais maintenant, elle est la cordo de notre équipe de formation.
Donc, elle est notre collègue.
Oui, c'est ça. Employée de la Coalition.
Voilà. Pour la petite visite, j'étais allé les visiter tout seul en septembre 2022. J'étais allé, en fait, un petit voyage à Québec parce que c'était la fête arc-en-ciel, donc la Pride de Québec. J'en ai profité, tant qu'à y aller, direct, de faire mes entrevues pour le podcast à Québec. Merci beaucoup à Philly et Roxane qui m'ont offert en fait de dormir chez eux pendant que je faisais ces entrevues-là. Vous vous apprêtez à écouter une entrevue qu'on a faite le matin, juste avant que je reparte en communauto. Et c'était vraiment une belle entrevue où est-ce qu'on a parlé autant de rapports de genre, de rapports de famille choisis. Je pense qu'il y a plusieurs sujets que vous allez aimer. Donc, allons-y! Bonjour, c'est un plaisir de vous voir ici chez vous, à Québec, en ce beau matin.
Ce beau lundi férié.
Ce beau lundi férié. Ma première question pour vous, très simple, qui êtes-vous? Introduisez-vous, quels sont vos prénoms, vos pronoms? Allez-y.
Ben, bon matin, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bien sûr.
Je m'appelle Marie-Philippe, Philly Drouin. J'utilise le pronom « yel » avec les accords alternés. Je suis un parent blanc, trans, non-binaire, qui habite Niamouatiou, qu'on appelle en termes coloniaux la ville de Québec, en basse ville, dans le Vieux-Limoilou, depuis 3 ans maintenant. Voilà, c'est qui je suis.
Incroyable. À ton tour.
Ben moi, mon nom c'est Roxane. J'utilise les pronoms L-E-L ou E-L-L-E. Avec les accords féminins ou neutres. Je suis un beau parent. J'habite dans la même ville que Philly parce qu'on habite même à la même adresse. C'est assez incroyable. Sinon...
On a un enfant de presque 4 ans qui va avoir 4 ans en octobre. Merveilleux petit bout de vie. Tout à fait sensible, curieux et enjoué.
Incroyable. Donc ça, c'est la petite famille.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres membres dans votre famille?
Il y a d'autres membres dans le sens où on est une grande communauté familiale. Notre enfant, Neve, pour la nommer, est en garde partagée entre les deux maisons. Mon coparent habite à une autre adresse qui est juste l'autre côté de la ruelle. On habite très proche dans le même quartier. Puis mon coparent Isabelle a 2 colocs, Isabelle et Charles, que notre enfant appelle Tati et Tonton. Et Tati et Tonton ont un bébé de 5 mois, presque 6 mois, qui s'appelle Émile, que Neve appelle son petit cousin.
On va reculer un peu dans le temps pour ma première question, qui est, est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Bien, en fait, j'en ai pas toujours voulu, un moment où je pensais que j'en voulais plus. Mais depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours... quand j'étais jeune, j'étais convaincue que j'allais avoir une grande famille. J'avais pas vraiment figuré quel modèle familial j'avais. J'imagine que j'avais en tête le modèle normatif. Un papa, une maman, une maison, un chien, un chat, puis des enfants. Je n'étais pas pressée, j'ai jamais été pressée. Je me suis jamais dit que je serais un jeune parent. Mais j'ai jamais été contre l'idée de dater des personnes qui avaient des enfants. Mais moi, à ce moment-là, je voulais pas d'enfants. Avant qu'on emménage ensemble, par exemple, on a eu des discussions un peu sur le rôle que je prendrais dans la vie de Nev, sur ce serait quoi la dynamique familiale, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'un adulte qui habite avec un enfant sans qu'il y ait un rôle positif dans sa vie. T'sais, moi, je voulais pas être la coloc d'un enfant de 2 ans et demi. Je trouvais ça assez étrange au niveau du développement affectif de l'enfant. Je trouvais que c'était spécial. Fait que là, on avait parlé sur c'est quoi la dynamique qu'on voudrait. Finalement, on s'était un peu penché sur ben, je vais prendre la place que Nev me laisse dans sa vie.
Ouais. Comme on n'a pas imposé la parentalité, c'est vraiment Nev qui a choisi Roxane. J'ai l'impression que souvent, on a l'impression que c'est des adultes qui adoptent des enfants. Mm-hmm. Puis de ce que j'ai vu dans la construction de leur relation, c'est vraiment Nev qui a adopté Roxane puis qui la considère comme son parent.
Est-ce que votre identité LGBTQ+ a influencé votre conception que c'était possible d'avoir une famille?
Pas du tout, en fait. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, je me disais que j'allais avoir des enfants. J'avais pas vraiment réfléchi sur le comment. Mm-hmm. Mais dans ma famille, du côté de ma grand-mère, en fait, du conjoint de ma grand-mère, il y avait une femme lesbienne qui avait des enfants avec mm-hmm. sa conjointe. Ce qui fait que pour moi, ça a toujours été dans le champ des possibles.
Moi, c'est le contraire. C'est le fait... Je pense que c'est le fait d'avoir fait un coming out trans, de vivre d'une façon authentique, d'avoir réfléchi la socialisation genrée, puis d'arriver à un moment dans ma vie, puis de dire « je peux apporter quelque chose de positif pour un enfant ».
Que vous vous souvenez des premières fois que vous avez compris que c'était possible, en fait? Ou juste vraiment de façon anodine, là, de voir une famille LGBTQ+, dans la rue ou dans les médias?
C'est une bonne question. J'avais jamais vu de famille transparentale avant de faire mon projet parental en tant que personne trans. Quand Isa était enceinte, j'ai eu un solide drop dans le sens où j'étais comme « Oh my God, mais je sais pas comment être un parent non-binaire. Je sais pas comment être un parent à l'extérieur de être mère ou être père.
Ouais. »
Puis il y a une angoisse existentielle qui s'est installée dans ma vie. Puis à ce moment-là, je travaillais déjà dans le milieu LGBT, fait que je suis partie comme en croisade pour trouver les parents trans autour de moi. Et là, j'ai eu accès à des aînés trans qui avaient eu... Puis, tu sais, je veux dire, les aînés trans dans nos communautés sont pas très vieux, là.
Non.
Genre, ils ont 40, 50 ans, là. Mm-hmm. Puis, j'étais comme, OK, puis comment tu vis ta parentalité? Tu veux-tu prendre un café, prendre une bière avec moi? Comme, mm-hmm. explique-moi la vie, c'est quoi mes possibilités? Je savais pas comment être. Mm-hmm. C'est vraiment au contact de ces personnes-là que j'ai un peu trouvé, parce que c'est vraiment dur d'être quelque chose que tu sais pas qu'il existe. Mm-hmm. Puis, genre, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir eu accès à ces discours-là puis ces personnes-là pour pas me dire quoi faire puis comment le faire, mais plutôt pour m'exposer les possibilités puis juste me montrer qu'il y a des possibilités infinies d'être parent mm-hmm. puis comment être authentique à l'extérieur des stéréotypes de ce qui est attendu en dehors de ton sexe assigné à la naissance.
Le thème de l'épisode, c'est famille choisie. On va parler de toute la binarité entre famille d'origine, famille choisie. Mm-hmm. Pour vous, comment ces deux notions-là vivent ensemble? Donc, comment est-ce que la famille d'origine et la famille choisie cohabitent? Est-ce que peuvent cohabiter? Est-ce que c'est des choses séparées?
Comme je viens d'un milieu très ouvert puis que j'ai jamais eu de rupture avec ma famille d'intention, pour moi, ma famille choisie puis ma famille d'intention cohabitent. Roxane qui passe Noël avec Nev, moi, Isa. Puis je trouve ça drôle, la famille choisie, qu'on dissocie de la famille d'intention, parce que comme j'ai fait un projet parental avec Isa, Mais Isa, je l'ai choisie, puis elle me choisit comme partenaire de vie aussi. Mm-hmm. On choisit d'avoir des enfants avec des gens. Fait que le choix, c'est une partie intégrante de la famille.
Pour toi, Roxane, est-ce que tu, dans ta notion de famille, la notion de famille choisie et de famille d'origine a été séparée?
Jamais. Mmh. Ma mère, surtout, mon père aussi, mais ma mère, surtout, a toujours été comme, ben, on n'est pas tout seul à Noël ou s'il y a de la bouffe pour 5, il y en a pour 10. S'il en manque, on en refera. Ce qui fait que il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas liés biologiquement avec nous dans les fêtes de famille, en fait. Mmh. Tu sais, je me rappelle à l'adolescence, ben, il y avait une amie de mon frère qui venait d'une famille un petit peu plus difficile puis qui n'était pas à l'aise d'aller dans sa famille à Noël. Ben là, ma mère était comme, ben, il n'y a pas question qu'un enfant de 16 ans reste tout seul chez eux le soir de Noël. Tu vas l'inviter à la maison. Mm-hmm. Puis il va avoir son cadeau à lui aussi en dessous du sapin. C'est pas parce que le sang n'est pas impliqué qu'on doit pas, on doit pas être bienveillant, on n'a pas care pour les gens qu'on aime, en fait.
Pour finir, c'est quoi vos conseils pour les futurs parents? Les futurs parents autant trans, non-binaires, les futurs parents qui veulent être pluriparentales, vraiment comme... C'est quoi vos conseils?
Moi, je pense que mon conseil, ce serait imaginez le modèle qui vous convient, parce qu'il y a plein de modèles qui n'existent pas. Arrêtez-vous pas à ce que vous connaissez. Je pense qu'il y a plein de modèles qui pourraient exister. Des fois, on a peur, on se dit « Ah, mais là... » J'ai jamais vu de famille comme ça. Est-ce que ça va, entre guillemets, quote-unquote, fucker nos enfants? Est-ce que c'est plus dommageable? Puis je pense pas que c'est parce que c'est un nouveau modèle que c'est un mauvais modèle. Fait que je pense que je dirais de pas s'arrêter à ce que vous connaissez. Choisissez la famille qui vous convient, en fait.
Rêvez un peu.
Ouais, rêvez, créez, faites des recherches, informez-vous autour de vous. Dites-vous, comme dans votre vie idéale, toi, qu'est-ce que tu te vois faire, là? Comme si tout était possible, c'est quel genre de famille que tu voudrais avoir, puis travailler à créer cette famille-là, en fait.
Je pense que d'un parent trans à un autre parent trans, ou un futur parent trans, faites-vous confiance. Quand tu vis dans une société qui te dit que t'es pas stable mentalement parce que tu vis de la dysphorie, il y a une magie de comprendre comment se créer et c'est une richesse inestimable pour nos enfants de pouvoir partager cette sensibilité-là, cette création-là, de pouvoir libérer nos enfants du carcan du genre. Il y a plein de façons d'être un parent en dehors des stéréotypes de ce qu'on s'attend d'une mère puis de ce qu'on s'attend d'un père. La parentalité est à créer à chaque famille, à chaque enfant, à chaque moment de la vie. Puis c'est correct de se repositionner puis de trouver cet espace-là pour être la meilleure version de soi-même, puis de pouvoir offrir une éducation, un support, une attention qui est authentique. Puis ça, nos enfants, ils sentent, ils savent. Puis c'est un cadeau inestimable de pouvoir être authentique par rapport à son enfant. Ça les inspire à être authentiques aussi, puis à développer... À laisser aussi les autres personnes autour de eux être autant authentiques. Puis ça, je pense que c'est un beau cadeau à faire à la prochaine génération.
Ah, c'était vraiment intéressant.
C'était une belle entrevue.
Oui.
Moi, qu'est-ce qui m'a touché le plus en tant que personne trans, c'est comment Philly, lorsque Yael se préparait à être parent, c'est vraiment retrouvé devant un gouffre ou est-ce que Yael savait juste pas comment être un parent non-binaire?
Oui, les modèles sont tellement importants.
Les modèles sont tellement importants puis sont inexistants. Merci à Philly, en fait, d'être un modèle avec ce podcast-ci. Mm-hmm. Pour conclure, merci énormément à toutes les familles qui nous ont accueillis aujourd'hui.
Oui.
Ils sont rendus très vulnérables. Parler de sujets qui est un peu difficile.
Oui.
La famille choisie, la famille d'origine, c'est pas toujours des sujets faciles. Mm. Encore une fois, merci beaucoup à Rachel et Marie, Mariam et à Philly et Roxane. Qu'est-ce que tu souhaites, Mona, pour les 25 prochaines années en lien avec justement le sujet de la famille choisie et la famille d'origine.
Mais en fait, ce que j'ai vu avec ces entrevues, c'est que c'est pas toujours facile, la famille d'origine, d'arrimer notre famille d'origine et puis notre famille choisie. Donc, j'aimerais, c'est sûr, voir dans le futur que de plus en plus, les familles d'origine vont accepter pleinement leurs enfants et leurs petits-enfants et que la famille d'origine devient en fait la famille choisie.
Dans le prochain épisode, on parle de naviguer les systèmes publics en tant que famille LGBTQ+. On aura le plaisir de rencontrer la famille de Alex et Valérie et celle de Jenna et Ibi. On se revoit dans 2 semaines, donc le 13 juillet. À bientôt! Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.